J'ai écrit il y a 6 mois cette phrase « Elle fait de tels progrès ». Et je n'ai pas eu envie d'écrire entre-temps, mais j'ai pensé aux ruses et aux excentricités de ma mémoire. En retrouvant mon cahier, je me suis remis à écrire. J'ai tenté dernièrement de me rappeler le nom de mon vieux « home » en Angleterre, où je suis né et où j'ai grandi, mais je ne m'en souviens plus du tout. Peut-être le retrouverai-je plus tard. Ma mémoire n'est pas si mauvaise. Il y a des choses, des petites choses banales qui me reviennent à l'esprit avec une étonnante précision. Je me souviens par exemple d'avoir rencontré à Paris, bien avant le nuage pourpre, un petit garçon brésilien couleur café au lait qu'elle me rappelle constamment aujourd'hui. Ses cheveux étaient coupés si ras qu'on pouvait voir la peau de son crâne au travers. Son grand plaisir était de jouer tout seul dans l'escalier de l'hôtel, costumé en pierrot, et j'ai en ce moment l'impression qu'il avait de grandes oreilles. Il était intelligent comme une mouche, capable de baragouiner 5 ou 6 langues avec le plus grand naturel, sans se rendre compte que cela dépassait l'ordinaire. Elle a ce même type d'intelligence, légère, inconsciente, nonchalante, et le même plaisir de vivre. Voilà un peu plus d'un an que j'ai commencé son éducation, et elle possède déjà un vocabulaire considérable, bien qu'elle ne puisse pas prononcer la lettre R. Elle a une passion pour la chimie et en possède de très bonnes notions. Elle a aussi lu, ou plutôt dévoré, plusieurs livres. Elle peut écrire, dessiner, jouer de l'harpe. Elle apprend tout sans effort, aussi naturellement qu'une hirondelle apprend à voler. Voici pourquoi je lui ai appris à lire. Un après-midi, il y a 14 mois, je la vis depuis le kiosque sur la margelle du lac. Elle avait un livre en main, et comme elle m'avait vu lire avec application, elle regardait les pages avec la même application, la tête penchée de côté d'une façon touchante. J'éclatais de rire en l'observant à la longue vue. Je ne sais pas encore si elle est une pauvre petite innocente ou la plus rusée des friponnes. Si j'avais le moindre soupçon qu'elle voulût attenter à mon honneur, cela irait mal pour elle. J'allais passer 3 jours à Gallipoli au mois de mai, et je revins avec un joli petit caïque, un croissant couleur de lune. Je le menai en auto jusqu'au lac, après avoir travaillé pendant 2 jours à ouvrir un passage parmi les buissons. Cela me plut beaucoup de l'avoir étendu dans la soie au milieu du caïque, et je l'entendis prononcer ses premiers mots pendant que je pagayais en douceur. Au début, les leçons de lecture duraient de 8 heures à 10 heures du soir. Plus tard, elles commençaient à 10 heures du matin pour finir à midi. Nous restions assis sur les marches du palais devant le portail. Sa bouche était voilée par le yashmak. Le livre de lecture était une Bible imprimée en gros caractères que j'eus la chance de trouver dans son yali. Elle ne demanda jamais pourquoi elle devait porter le yashmak, et je n'ai aucune idée de ce qu'elle peut en penser ni de ce que cela signifie pour elle. La seule question que je me pose et de savoir si elle est la simplicité même ou toute la perfidie du monde. Qu'elle ait conscience que nous ne sommes pas faits de la même façon, cela n'est pas douteux. Le simple fait que j'ai une longue barbe et qu'elle n'en ait pas est l'évidence même. Je me demande si un certain occidentalisme, une manière d'être de plus en plus moderne, est la conséquence de sa présence auprès de moi. Je ne sais pas. Du haut du palais, on peut voir miroiter un lac à travers les arbres de la forêt du Nord, et dans ce lac vit tout un peuple de carpes, de tanches, de gardons, etc. Un jour de mai, je me mis en quête d'une boutique d'attirail de pêche dans le bazar de Gallipoli. J'y trouvai 4 gaules de 3 mètres avec leurs moulinets, des lignes de soie, des flotteurs à plumes, des appâts artificiels, un paquet d'hameçons numéro 7 et des plombs pour les lignes de fond. Comme les vers et les asticots ne manquent pas dans l'île, J'étais sûr de prendre plus de poissons que je n'en désirais, et je n'en avais aucun désir. J'y pêchai donc plusieurs fois, pour mon simple amusement, étendu de tout mon long dans l'herbe, à l'ombre d'un énorme cèdre, là où la rive est en pente et l'eau profonde. Un après-midi, je la vis soudain à côté de moi, qui me questionnait des yeux, et, avec ma permission, elle resta. Puisqu'il en est ainsi, me dis-je, je vais lui apprendre à pêcher à la ligne de fond. Je la renvoyai au palais, chercher une autre gaule et d'autres instruments. Mais nous ne prîmes rien ce jour-là. Après lui avoir appris à accrocher le verre à l'hameçon, je lui dis d'aller en chercher d'autres, que nous hachâmes menus, afin d'appâter l'endroit pour le lendemain après-midi. Et quand nous eûmes fini, ce fut l'heure de dîner. Je la renvoyai chez elle, car à ce moment-là, je donnais mes leçons dans la matinée. Le lendemain, je la retrouvai au bord du lac. Je lui appris à sonder le fond afin de régler son flotteur. Et elle s'assit près de moi, en tenant sa gaule bien en main. Je lui dis « Cela vaut mieux que de vivre dans une cave pendant des années, sans rien faire que d'aller et venir, dormir, manger des dattes et boire du vin d'Ismith. » « Oui, répondit-elle. « Année après année, dis-je, comment as-tu pu supporter cela ?»« Je n'étais pas enfermé, dit-elle. « As-tu jamais soupçonné qu'il existait un monde au dehors de la cave ?»« Non, dit-elle. » Ou plutôt si, mais je ne pensais pas que c'était ce monde, un autre où lui vivait. Lui qui ? Tu demandes ? Celui qui m'a dit « Oh, un poisson !» Je vis son flotteur plonger. Je courus vers elle et lui appris comment taquiner le poisson. Ce n'était qu'un petit barbillon, mais elle s'extasia, le contempla dans la paume de sa main, et murmura son aimable roucoulement. Après avoir changé l'appât, nous rejetâmes la ligne à l'eau, et je repris. Mais quelle vie, aucune issue, aucune lumière, aucun paysage, aucun espoir. Beaucoup d'espoir, dit-elle. Mais de quoi ? Je savais très bien que quelque chose souriait au-dessus de la cave, ou en dessous, ou autour, et passerait à une heure précise, que je le verrais, le sentirais, et ce serait très gentil. De toute manière, tu devais l'attendre. Ces années devaient sembler longues. Quelquefois, pas toujours, j'étais tout le temps occupé. À faire quoi ? À manger, à boire, à courir, à parler. À toi-même ? Pas à moi-même. À qui alors ? À celui qui m'a appelé quand j'avais faim et qui a mis les dattes là ? Je vois. Ne t'agite pas comme cela ou tu ne prendras aucun poisson. La maxime du pêcheur est « apprends à rester tranquille ». « Oh, un autre ! » cria-t-elle. Et cette fois, elle tira le poisson hors de l'eau, toute seule et avec beaucoup d'adresse. Mais j'insistais. Veux-tu dire que tu n'étais jamais triste ? Parfois, je m'asseyais par terre et je pleurais, je ne sais pas pourquoi, mais si j'étais triste, je n'étais jamais malheureuse, jamais, jamais. Quand je pleurais, ce n'était pas longtemps, je dormais tout de suite et mon amour me prenait sur ses genoux et m'embrassait. Quel amour ! Tu demandes, mais tu sais bien. Celui qui disait quand j'avais faim et me parlait de la chose qui jouait au dehors de la cave. Ah, je vois, mais dans cette obscurité, n'avais-tu jamais peur ? Moi ? De quoi ? De l'inconnu. Pourquoi aurais-je eu peur ? Ce que je connaissais n'était pas du tout terrible. La faim et les dattes, la soif et le vin, l'envie de courir et suffisamment de place pour courir, l'envie de dormir et les rêves, oui, les rêves, pendant le sommeil, pas du tout terrible. Et l'inconnu était même moins terrible que le connu, c'étaient les jolies choses qui jouaient dehors. Comment pouvais-je avoir peur ? Vraiment, dis-je, Tu es un petit être fort intelligent, mais si tu continues à t'agiter de la sorte, tu ne pêcheras rien. Tu ne peux donc jamais rester tranquille une minute. Cela tient-il aux habitudes que tu as prises dans la cave ? Un autre ! Cria-t-elle, riant très fort, et ramenant un chavaine. Dans l'après-midi, elle avait pris 7 poissons, et moi un seul. Un autre jour, en quittant la rivière, je la conduisis à l'une des cuisines du village, avec notre provision de poissons. Jusque-là, nous les rejetions. C'est ainsi que je lui appris à faire cuire les aliments. Au palais, je ne me servais que de la lampe à alcool en argent pour le café et le chocolat. Nous commençâmes par nettoyer les instruments. Je lui montrai ensuite comment on fait bouillir et frire les choses, puis comment préparer une sauce avec du vinaigre, des olives en bouteille et du beurre américain qui venait du Speranza. Ensuite, je lui fis mettre dans l'eau bouillante un mélange de riz et de farine pour appâter notre coin de pêche. Elle fut d'abord assez étonnée, mais bientôt elle se révéla une adroite ménagère, toujours empressée. Un jour, de son propre instinct, elle écrasa quelques amandes dont elle parsema une carpe frite. Nous la dégustâmes assis tous les deux sur le plancher. J'ai l'impression que ce fut la première nourriture naturelle, à part les fruits, que j'ai goûtée depuis 21 ans, et je ne la trouvais pas désagréable du tout. Le lendemain, elle vint au palais en lisant un livre qui n'était autre qu'un livre de cuisine anglais. Elle l'avait trouvé dans son yali. Une semaine plus tard, elle apparut, en dehors des heures régulières, avec un plat en faïence de Delft, contenant un tas de choses joliment colorées. C'était un chavaine bouilli, couvert de poivre rouge, de safran, d'une sauce verte et d'amandes. Mais je la renvoyai, ne voulant pas la voir, ni elle ni son plat. À 3 kilomètres à l'ouest du palais, il y a une ruine au milieu de la forêt. C'est, je suppose, la ruine d'une mosquée, bien qu'on n'en voie que 3 tronçons de colonnes, couverts de plantes grimpantes et de ronces. La cour et les marches sont encore là. On y arrive par une avenue de cèdres. Entre les arbres, le terrain est couvert de mauvaises herbes et de folles avoines. J'en ai jusqu'à la poitrine. C'est là que je découvris, un jour, une plaque ronde de cuivre bosselée en son centre. Un bouclier, sans doute, ou une cymbale. Cet objet était décoré de cercles concentriques. Le lendemain, je revins avec des clous, un marteau, une scie et une boîte de peinture provenant du Speranza. Je peignis les cercles de différentes couleurs, coupai rein un tilleul, cloué le disque au tronc et le plantai devant les marches. Mon idée était d'en faire une cible et de m'entraîner au tir. Le soir même, je m'exerçai en me plaçant à une distance de 100 mètres, ce qui fit retentir l'île d'une alarme inhabituelle. Et elle vint bientôt me rejoindre en me regardant avec une certaine inquiétude. J'en étais plutôt mécontent, car mon bras était engourdi depuis le temps que je ne m'en étais pas servi, et mon tir était lamentablement imprécis. Mais j'étais trop fier pour dire quoi que ce soit. Je la laissai regarder, et elle ne fut pas longue à comprendre. Elle éclatait de rire chaque fois que je manquais la cible. Finalement, je me tournai de son côté et lui dis « Si tu crois que c'est facile, essaye à ton tour. » Elle avait très envie de le faire et ne se fit pas prier. J'abaissai le chien, lui montrai le mécanisme, les cartouches et comment s'y prendre pour tirer, puis je lui mis dans les mains un des colts du Speranza. Elle serra les dents sur sa lèvre inférieure, ferma l'œil gauche, éleva le revolver à la hauteur de son œil droit qui étincelait et envoya la balle au centre de la cible. Ce n'était évidemment qu'un coup de chance, et j'eus la satisfaction de voir qu'elle manqua les 5 autres coups, sauf le dernier qui fit mouche dans le noir. Il y a 3 semaines de cela. Aujourd'hui, mon record est de 40% de coups au but. Le sien est de 96%. C'est assez extraordinaire. Il est évident que cette créature est la protégée de quelqu'un et que le favoritisme est la loi du monde. Son livre préféré est le traité de chimie. Ensuite, c'est l'Ancien Testament. Parfois, à midi ou l'après-midi, quand je contemple le paysage du haut du toit, ou depuis les galeries, j'aperçois une silhouette assise au loin sur le gazon, à l'ombre d'un platane ou d'un cèdre. Je ne manque jamais de deviner quel livre elle emporte avec elle au sortir de son laboratoire. C'est la Bible, comme un vieux rabbin. Elle a une passion pour les histoires, et elles abondent dans ce livre. Il y a 3 soirs de cela, la nuit était déjà fort avancée et la lune brillait de tout son éclat. Je la vis qui rentrait chez elle en longeant le lac. Je la hélai d'une voix forte pour lui souhaiter « bonsoir », mais elle crut que je lui demandais de venir. Nous nous assîmes sur le haut des marches et nous devisâmes pendant des heures. Elle ne portait pas son yashmak. À propos de la Bible, elle me demanda « qu'est-ce que Caïn a fait à Abel ?»« Il l'a tué. » »« Je sais, mais qu'est-ce qu'Abel a senti ?» « Eh bien, dis-je, tu vois des squelettes autour de toi. La même chose leur est arrivée. La même chose arrive aux poissons quand on les sort de l'eau. » « Est-ce que les hommes et les poissons sentent la même chose après ?»« Exactement la même chose. C'est comme si on entrait en transe ou lorsqu'on fait un rêve dépourvu de sens. » »« Ça n'est pas terrible. Ça m'est égal de mourir. » »« Eh bien, tant mieux. » Car tu mourras peut-être plus tôt que tu ne le penses. Ça m'est égal. Pourquoi les hommes ont-ils si peur? Parce qu'ils sont tous des lâches. Pas du tout, pas du tout. Ils ne sont pas du tout des lâches. Cette fille, je ne sais pas pour quelle raison, avait définitivement pris parti contre moi en faveur de la race morte, et elle mettait toutes les chances de son côté. La plupart le sont, dis-je. « Cite-moi un homme qui n'a pas peur. »« D'abord, ils combattent dans les batailles pour rien, » dit-elle. « Et puis, pense à Isaac. Quand Abraham l'a conduit dans les bois pour le tuer, il ne s'est pas sauvé pour aller se cacher. »« Évidemment, dis-je, dans les livres, tu lis ce qui concerne un peuple d'élite, mais il y avait des millions d'autres gens, surtout au moment du nuage, qui ne valaient pas grand-chose. » Ils étaient vulgaires, stupides, lourdeaux, abjects, dégradés, malades, et ils corrompaient la terre de leurs vices et de leurs crimes. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle était assise, le dos à moitié tourné de mon côté, et croquait des amandes en frappant continuellement la marche du bout de sa pantoufle. Son fez et ses boucles de corail se reflétaient comme un bouquet de fleurs rouges dans l'or de la terrasse. Elle se pencha de côté et but un peu de vin dans un gobelet d'or javané que j'avais rapporté du temple de Borobudur. Il cachait presque entièrement son visage. Le duvet de ses lèvres encore humides, elle reprit « Vices et crimes, crimes et vices, toujours la même chose. » Mais ils sont intelligents. Ils ont trouvé par exemple de quoi est composée l'eau et ils ont su voyager dessus. Quelle jolie chose intelligente qu'un bateau! Ils ont su que l'atmosphère de Mars contient plus d'oxygène que notre planète. Ils parlent par-dessus les continents. Comme ils ont des idées! S'ils sont assez intelligents pour ça, ils trouveront bien le moyen de vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est que ces crimes et ces vices? Toutes sortes de brigandages et de meurtres. Pourquoi ça? À cause de leur âme noire. Mais tu es l'un d'eux, moi aussi, et nous vivons ici, ensemble, sans vice ni crime. Quelle ruse étonnante! Parce que les motifs nous manquent. Nous n'avons aucune raison de nous haïr, car nous sommes comblés de dates, de vin et de 1000 choses. Le danger est plutôt ailleurs. S'ils se haïssaient, c'est parce qu'ils étaient trop nombreux et qu'il leur fallait partager les dattes et le vin.
Il n'y avait donc pas assez de place pour les dattes et la vigne ?
Il y en avait, bien sûr, plus qu'il n'en fallait, mais les uns en avaient beaucoup trop et les autres n'avaient presque rien. Cela provoqua un curieux état de choses, la cupidité, la vulgarité. De là, les crimes et les vices.
Mais alors, dit-elle, ce n'était pas à cause de leur mauvais esprit qu'il y avait des crimes et des vices, mais c'était une question de propriété. S'il n'y avait pas eu cette question, il n'y aurait pas eu de vices et de crimes. Nous ici, qui sommes comme eux, n'avons aucun vice et ne commettons pas de crimes, puisque la question ne se pose pas. Quel esprit lumineux ! Il va droit au cœur d'une question.
Peut-être, dis-je, mais alors c'était une affaire de propriété de la terre, et il en sera toujours ainsi, là où des millions d'êtres plus ou moins avides, chanceux ou sournois, vivent ensemble.
« Oh, pas nécessairement !» s'écria-t-elle d'une voix forte. « Puisqu'il y a plus de terre qu'il n'en faut, s'il doit naître de nouveaux hommes maintenant, ils auront l'expérience du passé, ils pourront faire un arrangement entre eux, et celui qui essaiera d'accaparer plus qu'il ne peut travailler sera renvoyé à son non-sens. La question ne se posera plus.
Elle s'est posée avant, elle se posera encore.
Mais non, je devine ce qui s'est passé dans le temps. Il y avait tant de terres que les hommes n'ont pas songé à faire un arrangement entre eux. Ils ne s'en sont pas souciés, et ensuite, avec l'habitude, l'insouciance est devenue la loi. Mais si d'autres hommes venaient au monde, ils sauraient ce qu'il faut faire.
Oui, mais aucun homme ne viendra plus au monde, vois-tu.
Elle resta un moment silencieuse. On ne peut pas savoir, dit-elle à la fin. Quelquefois, je pense que d'autres hommes naîtront, que cela doit être. Les plantes fleurissent, le tonnerre gronde, l'air me fait courir et sauter, la terre porte des fruits en quantité, et j'entends la voix du Seigneur se promener entre les arbres de la forêt. Je remarquai qu'en disant cela, sa lèvre inférieure tremblait comme lorsqu'elle est sur le point de pleurer, et que ses yeux étaient humides. Mais aussitôt, elle me regarda bien en face en souriant. Elle change d'expression avec une telle facilité. Je remarquai la noblesse de son front et j'en fus frappé. Il était très haut et bombé comme une cloche. Des boucles de cheveux frisés l'ornaient comme une draperie et, de temps à autre, elle remuait la tête pour les remettre en place. « Clodagh, » dis-je au bout de quelques minutes, « sais-tu pourquoi je t'appelle Clodagh ?»«
Non, dis-moi. »
« Parce que dans le temps j'avais une fiancée appelée Clodagh, et c'était une... « Mais dis-moi d'abord, » cria-t-elle, « comment quelqu'un peut-il distinguer son amour, sa femme parmi les autres ? Il y a beaucoup de visages, tous pareils. »«
Oh, il y avait forcément quelques petites différences. »
Alors il fallait être bien intelligent pour parler d'amour. J'imagine difficilement d'autres visages que le tien et le mien.
Parce que tu es une petite oie blanche, vois-tu.
Comment était une petite oie blanche?
Quelque chose comme un papillon, mais plus gros, qui avait les pattes écartées avec de la chair entre les doigts.
Vraiment, quelle fantaisie! Et je suis comme ça? Mais que disais-tu au sujet de ta fiancée, Clodagh? Qu'elle était une...
Une criminelle.
Criminelle. Et tu m'appelles Clodagh.
Pour me souvenir, à moins que tu ne deviennes ma fiancée.
Je suis ta fiancée.
Que dis-tu, jeune fille?
Est-ce que je ne t'aime pas, puisque tu es à moi?
Ça va, ne sois pas une petite... Clodagh était une empoisonneuse.
Pourquoi? N'avait-elle pas assez de dattes et de vin?
Elle en avait en quantité, mais elle en voulait toujours plus. Donc, les vices et les crimes n'étaient pas réservés à ceux qui manquaient de tout, mais c'étaient les autres qui les commettaient.
sur tous les autres.
Je vois de quoi il s'agissait.
C'est-à-dire, les autres avaient été gâtés. Les vices et les crimes ont dû commencer avec ceux qui manquaient de tout. Les autres, voyant toujours les vices et les crimes autour d'eux, en ont aussi commis à leur tour. C'est comme quand une olive est gâtée dans une bouteille, elle gâte toutes les autres. C'est à cause d'un manque de soin au début. Mais si de nouveau des hommes naissent...
Mais je t'ai dit, n'est-ce pas, qu'aucun homme ne naîtra plus. Tu sais, Clodagh, que la terre produisait des hommes selon un processus éternel. Il y a eu au début un type de vie tout à fait primitif, puis, peu à peu, il s'est amélioré et l'homme parvint à se tenir debout. Mais cela ne se reproduira plus. La terre est beaucoup trop vieille et elle a perdu tout espoir d'évolution. Ne parle donc plus d'homme à naître et de choses que tu ne connais pas. Va plutôt chercher... Mais je vais te confier un secret. Aujourd'hui, dans le bois, j'ai cueilli quelques roses musquées et je les ai entrelacées pour en former une couronne que je voulais voir sur ton front demain. Cette couronne est sur le tripode de perles, dans la troisième chambre à droite. Va la chercher, mets-la sur ta tête, apporte la harpe et fais-moi entendre de la musique, ma chère. Elle courut en poussant un petit cri de joie, revint avec la guirlande sur la tête et s'assit comme une image incarnadine, reflétée dans le scintillement doré des dalles. Je ne la renvoyais pas chez elle avant que la lune, soumise et pâle après les béatitudes de la nuit, s'abîme entre ses draps de pourpre et de perles, pour prendre son repos au royaume d'Hespérie. Ainsi nous parlions ensemble de temps en temps, elle et moi, moi et elle. Hier, je me promenais dans un bois du côté de l'ouest. La soirée était belle, le soleil venait de se coucher, et j'avais avec moi le cahier où je note des choses. Je voulais dessiner un vieux moulin situé au nord-ouest pour le lui montrer. 20 minutes plus tôt, elle était avec moi. Je l'avais rencontrée par hasard, et nous avions fait quelques pas ensemble. Puis elle courut en avant pour gauler des noix et cueillir des brassées d'amarante, de nénuphars et d'asphodèles aux fruits rouges. Bientôt, fatigué de cette vue, je lui avais crié « Va-t'en, je n'en peux plus de te voir !» Elle se mordit les lèvres et, au bord des larmes, s'en alla. Je continuais donc ma promenade quand j'eus l'impression que la terre tremblait un peu et, avant de compter jusqu'à 20, le sol se souleva et se crevassa en plusieurs endroits. Je pris mes jambes à mon cou et j'appelai dans la direction qu'elle avait prise, titubant comme sur le pont d'un navire secoué par la tempête, trébuchant, me ramassant comme je pouvais, reprenant ma course. L'air était empli de vacarme, la terre s'agitait comme les vagues de l'océan. Je poursuivis ma course en plongeant dans des trous et sans savoir de quel côté me diriger. Soudain, je vis sur ma gauche plusieurs arpents de forêt s'écrouler et disparaître dans un ravin qui venait de s'ouvrir pour les engloutir. Je levai les bras au ciel et je criai « Mon Dieu, sauvez la jeune fille !» Une minute plus tard, je me trouvai, à ma grande surprise, dans un endroit découvert au flanc d'une colline, d'où j'apercevais le palais au-dessous de moi, et plus loin, une vague blanche d'écume qui semblait plus haute que l'île. Je dégringolai la colline, poussé par l'idée de fuir quelque part, mais je n'avais pas descendu la moitié du chemin que, de nouveau, un sifflement perçant comme un appel musical retentit à mes oreilles, et peu après, le palais s'effondra dans un tintamarre de cloches d'or au fond du lac. Quelques secondes plus tard, la secousse qui n'avait pas duré plus de 10 minutes prit fin. Je la retrouvai, une heure plus tard, dans les ruines de son yali.